retrouve à nouveau nos auditeurs de Radio Galère, fidèles à notre émission hebdomadaire du mardi. Merci à Étienne qui est venu nous dépanner en technique. Et je cède la place, donc qui cède la place à Roselyne qui reprend son poste après avoir eu un moment d'inquiétude. Bien, j'en reviens donc au premier sujet que je voulais aborder, que j'aborde vraiment, qui est la prise de pouvoir aujourd'hui même à Dakar du nouveau président de la République élu il y a fort peu. Donc vous savez, vous avez vu son nom partout, il s'appelle Monsieur Bassissou Diomaye Dakar Faye. Alors je ne sais pas si on prononce Faye ou Fayé. Toujours est-il que maintenant la République du Sénégal a un nouveau président. Et il l'est officiellement, puisque donc ça a dû commencer ce matin. Il a prêté serment, il a eu donc la transmission des pouvoirs entre lui et le président sortant Macky Sall, et puis ensuite il y a eu une réception dont je ne sais pas à l'heure où je vous parle si elle est terminée, mais je vais m'arrêter un tout petit peu sur la réception qui a lieu pour vous dire qui est venu, parce que dans ces cas-là, il y a quand même, on invite des chefs d'État, des chefs de gouvernement pour donner une certaine solennité à cette élection. Par ailleurs, surprise, puisqu'il faut bien se rendre compte que le fait que le candidat de l'opposition, opposition réprimée, qui a subi des coups très très durs de la part du président sortant pendant des années, jusqu'à emprisonner le leader de la dite opposition, je parlais de Ousmane Sonko, a obtenu un score extraordinaire de presque 55% au premier tour de l'élection présidentielle, alors que le candidat présidentiel de la majorité sortante avait eu de la peine à arriver à autour de 35%, c'est-à-dire un effondrement du parti de la présidence. Alors sur cet effondrement, je ne sais pas quel est l'avis de Roselyne sur cet effondrement du candidat présidentiel du parti au pouvoir au Sénégal. Moi, j'ai quand même un doute sur cet effondrement. Et je pense, et j'ai vu différents échos dans la presse, disant que finalement le candidat du président sortant n'a pas tellement été soutenu par le président en soutenant, puisque un candidat du parti au pouvoir qui avait tous les pouvoirs, qui était puissant, qui se trouve arrivé avec peine à 35% des voix au premier tour de l'élection présidentielle, il semble bien que ce candidat-là n'ait pas eu tout le soutien qu'il pouvait attendre du président, des médias, des groupes de pression qui étaient proches du président sortant Macky Sall. Bon, ça c'est une première hypothèse. Comment ça se fait que ce candidat du parti au pouvoir, c'est très très rare, regardez dans toutes les comparaisons qu'on peut faire ici ou là dans différents pays, le parti au pouvoir, qui a été un pouvoir fort, même j'allais dire un pouvoir excessif, qui tout d'un coup a un score lamentable pour un parti au pouvoir sur des événements qu'on comprend pas bien, ça pose question. Alors, est-ce que ce candidat a été mal soutenu? C'est pas impossible. Moi, c'est mon hypothèse. Et on l'a laissé aller au combat, mais on l'a laissé sans beaucoup le soutenir. Et le transfert de voix, c'est-à-dire pour arriver à 55% quand on est un parti d'opposition au premier tour, on est dans un premier tour, hein, pas dans un deuxième tour avec des ralliements. Ça veut dire qu'il y a une partie du corps électoral sénégalais qui avait voté pour le parti au pouvoir, qui, bon gré mal gré, en pleine conscience lui-même, sans qu'on lui tienne la main, a décidé de voter pour l'opposition. Parce que le 55% d'un premier coup comme ça, c'est assez miraculeux. C'est d'autant plus miraculeux que le porteur de cet espoir de changement, qui est donc le président nouvellement élu, n'était peu connu. Et donc on a un inconnu, un néophyte en politique qui n'a jamais eu aucun mandat, qui tout d'un coup sort d'une boîte et arrive avec 55% des voix. Alors on a eu des cas comme ça. On a eu un certain Emmanuel Macron qui est sorti d'une boîte et qui est apparu, mais il est apparu beaucoup plus difficilement au second tour avec des ralliements. Mais on ne peut pas essayer de réfléchir à un Emmanuel Macron arrivant en 2017 au premier tour avec 54% des voix. Il faudrait bien qu'il y ait eu des ralliements qui n'auraient pas été des ralliements officiels, mais qu'il ait des soutiens puissants. Bon. À voir. Je reste sur mes interrogations. Et on en parlera peut-être avec Roselyne si elle reprend ses esprits, mais c'est pas le moment. Voilà. Et je vous fais la liste des principaux personnages qui ont dû assister ou assistent encore, je sais pas si la cérémonie est maintenue, enfin, elle continue. On a en présence, donc, le président du Nigeria, monsieur Bola Ahmed Tinubu, personnage assez étrange par ailleurs, qui est là parce que d'une part il est président du Nigeria et qu'il est président en exercice de la CEDAO, la fameuse Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, dont fait partie le Sénégal. Il y a là le Mauritanien Mohamed Oulcheikh El Ghazouani, président de la Mauritanie voisine, le Gambien. Alors vous savez que la Gambie est un petit pays inclus à l'intérieur du territoire sénégalais, donc le président gambien qui s'appelle Adama Barrow, et le président de la Guinée qui est le président Mamadi Doumbouya, et le président de la Guinée-Bissau, donc l'ex-colonie portugaise, Oumaro Sissoko Mbayo. Donc c'est eux qui sont annoncés d'après la presse que j'ai d'hier, je pense qu'ils y étaient. Et puis s'ajoute à cette délégation, donc ce petit panel de chefs d'État, donc j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, un certain nombre de représentants d'autres pays membres de la CEDAO, en particulier le vice-président ivoirien, qui s'appelle Tiémoko Meilet Kone, et le premier ministre rwandais, Edouard Ngirente, je ne sais pas si je le prononce bien, et le président, alors il y a un Malien qui est invité, qui est le président d'un organe dont on dit dans la dépêche de presse que j'ai sous les yeux, qu'il tient lieu de parlement au Mali, donc c'est Malik Diaw, ça veut dire que le chef d'État malien n'est pas venu, pas plus que le chef d'État du Niger, pas plus que le chef d'État du Burkina Faso. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce petit groupe rassemblé autour du nouveau président?
Ben, ça veut dire... J'ai juste entendu dire que Laurent Gbagbo, président du Parti des Peuples Africains en Côte d'Ivoire, avait été invité. Mais je ne sais pas s'il a pu s'y rendre.
Voilà. Donc voilà, pour l'instant, ce que je sais moi dans cette dépêche de presse, c'est uniquement le vice-président ivoirien. Bien. Alors, ce que ça veut dire, ben, ça veut dire que effectivement, la CEDAO fait bloc autour de ce nouveau président qui fait partie du groupe. Et alors, je souligne, parce que c'est important pour la suite des événements, que d'une part, à aucun moment dans sa campagne, le candidat élu n'a fait part de réserve vis-à-vis de la CEDAO, et même au contraire, dans son programme, il est dit qu'il va tenter. Et là, je pense qu'il n'est pas le seul à être de cet avis. Il va tenter de faire revenir, je mets ça entre guillemets, les trois dissidents, ceux qui ont quitté, qui ont claqué la porte. Donc il va essayer, il l'a dit dans son programme, faire revenir le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDAO. C'est dans le programme, je l'ai lu. Bon, donc là, il a des ambitions importantes qu'on peut comprendre puisque la CEDAO s'est beaucoup affaiblie du fait, au moins numériquement et en superficie, du fait de ces trois départs. Ça peut donner une indication sur les soutiens internationaux que va avoir ce nouveau président. Soutiens internationaux, puisqu'on peut évidemment commencer par la République française, qui a été mise dehors comme une balle propre des trois pays du Sahel que je viens de citer, et qui aimerait bien que cette incartade, comme on dit à propos des adolescents indisciplinés, cette incartade, c'est ça. Je ne sais pas si on en prend du tout le chemin, et le fait qu'il n'y ait pas donc d'invités de ces trois gouvernements-là veut plutôt dire qu'ils ont fait un choix et qu'ils essayent bien de le maintenir. Alors que signifie ce président nouveau ? Je me livre à un certain nombre d'hypothèses. D'une part, il est clairement au service de la politique de maintien de la CEDAO et donc de maintien d'une certaine influence européenne et extra-africaine sur cette zone-là du continent européen. Maintien que, évidemment, les trois précités, les trois dissidents ont refusé très très clairement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que son programme est un programme donc civil et que, assez curieusement, et ça, je pense que c'était un souhait de ceux qui l'ont soutenu à l'étranger, même sans faire beaucoup de bruit, c'était que l'armée et les questions militaires n'intervinssent en rien dans le choix des électeurs. Et effectivement, il n'a pas été question dans sa campagne, ni dans les débats électoraux qu'on a pu voir, ni dans les prises de position du parti d'opposition, le PASTEF, des troupes françaises, d'ailleurs en très petit nombre, qui existent encore au Sénégal. On est autour de 300 personnes dans ce qu'on appelle l'EFS, établissement français, au Sénégal. Bon. Donc effectivement, il y a là effectivement une option qui est de dire les militaires n'ont pas à se mêler de ces choses-là, de changement de pouvoir, et on a là la bonne occasion pour dire qu'il est aujourd'hui possible de réaliser par la voie électorale, par les urnes, dans le calme, un changement politique. C'est-à-dire indirectement de dire ce qui s'est passé à Bamako, ce qui s'est passé à Ouagadougou, ce qui s'est passé à Niamey, c'est une erreur à ne pas reproduire. Ce que nous aimons, nous, c'est l'arrivée par les urnes dans le calme d'un candidat qui n'est pas disposé à nous faire des misères. Je veux dire, nous, colonialistes occidentaux et français en particulier. C'est pour moi le cadre de ce qui va se passer. C'est-à-dire que le personnage dont alors une partie de la presse fait des portraits élogieux alors qu'elle les fait après son élection, elle ne les a pas fait avant ou très très peu, est un personnage, je pense, assez neuf politiquement, je pense assez influençable, on le verra petit à petit. Et donc la trajectoire de ce nouveau président sera à suivre de tout à fait près parce qu'il est porté sur les fonts baptismaux, si j'ose dire, bien qu'il soit musulman, il est porté sur les fonts baptismaux par des intérêts qui ne sont pas du tout anticoloniaux. On verra, et on va voir très vite à mon avis, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments décisifs qui vont prendre corps tout de suite. Je pense en particulier à la question du franc CFA, c'est-à-dire sortir du franc CFA, c'est en même temps sortir de la CEDEAO. On fait comment ? Quel risque on prend ? Est-ce que la maison mère, je veux parler de la France, qui, je vous le rappelle, c'est le Parlement français qui a changé la dénomination du franc colonial CFA pour l'appeler l'éco. Et donc, quand on a une monnaie dont la structure et dont l'organisation a été organisée par le colonisateur, pour en sortir, ça veut dire qu'il faut qu'on ait l'accord ou qu'on ait un poids politique suffisant pour quitter un instrument de tutelle extrêmement fort de l'économie de son pays. Parce que la tutelle du franc CFA, c'est une tutelle catastrophique, en ce sens que ça enlève beaucoup, beaucoup de pouvoir de choix à un gouvernement qui utilise le franc CFA, dont la monnaie est le franc CFA. Pourquoi ? Parce qu'il utilise beaucoup de poids dans la mesure où il n'a pas la maîtrise de son commerce extérieur, et donc il est obligé d'aller chercher les francs CFA quelque part à Bercy, donc dans notre, au trésor de la République française, pour dire j'ai besoin de tant de francs CFA convertis en euros avec un cours qui est connu, pour acheter tel produit, que ce soit en Allemagne, au Canada, où qu'on veuille, en Argentine, au Brésil. Bon, le commerce extérieur d'un pays qui utilise le franc CFA est un commerce extérieur bridé par le colonisateur, qu'on le veuille ou non, puisque de toute façon, il faut demander l'accord du trésor français pour pouvoir convertir les francs CFA dans une devise étrangère et pouvoir acheter à l'extérieur. Bon, donc cette tutelle-là est extraordinairement lourde à porter, et en sortir, qui est un des premiers articles du programme du nouveau président, est une opération qui méritera d'être suivie du plus près. Alors, est-ce que c'est par ça qu'il va commencer ? Il est certain que ça sera suivi. Si c'est par ça qu'il commence, ça sera suivi de très très près, parce que c'est un enjeu capital, et c'est un enjeu y compris pour les autres membres de la CEDEAO. On verra bien. Donc moi j'en reste à une hypothèse très très prudente sur la capacité, la liberté d'action de ce personnage, qui est un novice en politique, dont on a tressé très habilement des portraits très très flatteurs sitôt après son élection, qui a réussi une élection surprise dans un contexte que je vous ai signalé, c'est-à-dire un parti au pouvoir qui s'effondre sans qu'on comprenne exactement pourquoi et qui laisse la place à l'opposition sans vraiment s'y opposer. Voilà, mes doutes sont sur la table, je ne sais pas si l'histoire dira qu'ils sont fondés, mais mes doutes sont sur la table. On verra. Je ne sais pas si Roselyne a un avis là-dessus. Non.
Non, j'ai toujours pas d'avis. Enfin, j'ai pas d'avis parce que ouais. J'ai pas. Voilà. Mais je suis quand même. Moi, j'espère. Voilà. Je suis dans l'espoir d'un avenir meilleur pour l'Afrique subsaharienne avec cette nouvelle élection au Sénégal, parce qu'elle peut permettre beaucoup de choses si effectivement Bassirou Diomaye Faye n'a pas de bâton dans les roues et voilà. Qu'il peut agir librement. Voilà. Ouais. Après la CEDEAO, pourquoi pas arranger les choses, hein, j'en sais rien. Mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis quand même contente de ce changement. Voilà. Enfin, a priori, changement.
A priori, voilà. On verra. Hein, on verra. Donc, avenir très ouvert, mais on ne voit pas s'ouvrir tout de suite de grands mots. Enfin, hein, il va prendre la température. Il l'a peut-être déjà. Il a été reçu par Macky Sall dès son élection. Donc, il y a quand même une transition qui se passe sans douleur. Mais transition sans douleur, ça veut dire un minimum de consensus. Hein, autrement, il n'y a pas
oui.
de...
Voilà. Et n'oubliez pas, n'oublions pas que Ousmane Sonko est là.
Voilà.
Dans l'ombre, mais il
dans
est
l'ombre.
Là.
Voilà. Sorti, voilà, frais sorti de prison. Bien, passons, alors pour rester dans les affaires, non pas coloniales, pas néocoloniales, mais coloniales, un mot sur la Kanaky, puisque vous savez que c'est cette semaine que le Parlement français, c'est déjà fait je crois pour le Sénat, il reste l'Assemblée nationale, va se prononcer sur une modification du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, modification dont je vous indique tout de suite et très facilement le sens. Il faut savoir que la population kanak d'origine est minoritaire au point de vue électoral et au niveau de la présence sur le territoire. Mais c'est une minorité relative puisque on est autour de 45-46% du corps électoral, donc c'est pas très très loin de la moyenne. Mais ce qui se passe, c'est que la réforme constitutionnelle qui est en cours et qui donc va être votée par les deux chambres, d'abord par le Sénat, par l'Assemblée nationale, et validée en Congrès en rassemblant les deux chambres, permet d'élargir le corps électoral aux nouveaux venus sur l'île. Les nouveaux venus sur l'île, évidemment, ce ne sont pas des Kanaks, puisque les Kanaks, ils sont là sur place. Hein. Donc, en fait, on va rajouter 15 ou 20 000 nouveaux électeurs du côté des néo-européens qui sont là, et donc on va rabaisser d'autant la minorité kanak d'origine, c'est-à-dire elle va passer de 45-46% où elle est à peut-être 40 et même en dessous. Ce qui veut dire que toute tentative des Kanaks de dire « nous sommes chez nous et nous voulons gouverner », ce qui ne veut pas du tout dire « mettre les autres à la mer », devient extrêmement délicate. Délicate, et c'est bien pour ça que cette opération est menée par M. Darmanin avec les orientations idéologiques qu'on lui connaît, et bien entendu avec derrière lui le président Macron. Alors ça va certainement se faire. Le seul obstacle possible, c'est d'une part une réaction de la population kanak, mais qui est difficile, puis elle n'a pas décidé de passer à la lutte armée, et puis elle sait qu'elle serait sérieusement encadrée, parce qu'il y a sur place quand même une partie de l'armée française. Il y a eu des exercices qui ont été réalisés en Kanaky pour bien montrer comment les parachutistes peuvent arriver sur le territoire, et donc ça paraît exclu. Donc il resterait l'ultime recours, sur lequel je m'arrête quand même parce qu'il mérite d'être connu, c'est-à-dire qu'il faut savoir et il faut rappeler que la Nouvelle-Calédonie fait partie, pour l'ONU, des territoires à décoloniser. Il y a à l'ONU, qui a été créé je crois en 1950, un comité de la décolonisation qui, sur des bases extrêmement claires, a dit que tout pays, en particulier toute île, puisque ça se joue principalement dans des îles, toute île dont la population d'origine a été envahie et colonisée par une autre, peut devenir indépendante, a le droit à s'autodéterminer, et peut s'autodéterminer du colonisateur. C'est le cas de la Nouvelle-Calédonie, puisque les Calédoniens, les Kanaks, sont dans leur île depuis en gros 4000 ans avant Jésus-Christ, donc il n'y a pas de doute, et les Européens qui sont arrivés là, et les Français en particulier, sont arrivés beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, sur le fait que ce territoire ait été colonisé par la France, il n'y a pas l'ombre d'un doute, et pour l'ONU, c'est parfaitement limpide. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, le pays a droit à l'autodétermination. Alors vous savez qu'il y a eu 3 référendums sur la question de l'autodétermination, référendums au cours desquels la voix des Kanaks et la voix des indépendantistes, parce qu'il n'y a pas que des Kanaks dans les indépendantistes, s'est approchée très très près de la majorité. Et c'est pour éviter qu'une nouvelle échéance électorale qui n'a pas été programmée mais qui est réclamée par les Kanaks ait lieu, qu'à ce moment-là, M. Darmanin dit « Allez, je remets 20 000 Européens de plus ou 20 000 Français de plus, et là, comme ça, les Kanaks, au lieu d'arriver à 50%, ils n'arriveront même pas à 40%. » C'est ça le calcul. Donc c'est un calcul volontairement colonialiste pour maintenir l'emprise de la France sur ce territoire et surtout pour maintenir l'emprise de la France sur l'énorme domaine maritime qui entoure la Nouvelle-Calédonie. Et je vais vous donner une indication que j'ai recueillie la semaine dernière et qui est très très intéressante à ce sujet. J'ai rencontré un professeur d'un lycée de Marseille, professeur d'histoire, qui nous a raconté qu'à l'occasion d'un événement, enfin même pas un événement, à un moment donné, au moment où il était professeur, il y a une dizaine d'années, le proviseur du lycée dit, écoutez, il y a toute une série de vieux livres qui ont été utilisés par les classes terminales, les classes préparatoires et tout, d'histoire, qui sont là. Il y a des dizaines d'exemplaires de chaque. Alors, servez-vous, on en gardera un pour les archives, mais c'est pas la peine que moi j'encombre mes rayonnages avec ce genre d'ouvrage. Et ce professeur d'histoire découvre que dans les manuels d'histoire de la colonisation française, qui était donc en circulation dans les années 20 et 30 dans ce lycée de Marseille, c'est le lycée Thiers, il n'y a rien à cacher, tous les manuels, écoutez bien, tous les manuels disaient qu'il y avait des Kanaks, mais qu'ils allaient disparaître. Qu'ils allaient disparaître. C'était ça le projet de la Troisième République, faire disparaître les Kanaks. Bon, pas de chance, ils ne sont pas disparus, hein, mais c'est très intéressant de rappeler, ça a été ça la vision coloniale. Ils nous embêtent, ils sont plus nombreux que nous. Alors, depuis les années 30, 20 et 30, on a fait venir un certain nombre d'Européens, on veut en faire venir de plus, puisque c'est ça la politique de M. Darmanin, mais à l'époque, le souci, ce n'était pas ça, c'est dire, on élimine et on n'en parle plus. On est chez nous. Et on arrive à une situation, effectivement, l'ONU n'a plus rien à dire, puisque les colonisés sont partis, ils sont tous morts, hein, donc l'affaire est classée. Bon. C'est vous dire qu'on vient de loin, puisque la République, la Troisième République, a été capable d'organiser, enfin, de faire proférer ce genre de contre-vérité et de le faire enseigner à tous les élèves. Alors il faut savoir que dans les années 20 et les années 30, c'était pas l'école pour tous, enfin le lycée pour tous et les classes préparatoires pour tous, c'était pas le cas dans les années 20 et les années 30. Donc on avait une partie des enfants de la grande bourgeoisie française ou de la moyenne bourgeoisie qui partaient avec ça dans la tête. Les Kanaks, bientôt il n'y en aura plus. Hein. Et donc si on nous dit qu'il y a une émeute Kanak qui a été réprimée, qu'ils sont tous morts, ça n'émouvra personne. Voilà, je voulais resituer pour qu'on se rende bien compte. Alors, j'espère quand même que l'ONU va réagir, et je sais que les Kanaks savent trouver le chemin de New York pour dire, dites là, on est en train de nous empêcher de nous autodéterminer. Mais, donc, affaire à suivre. Mais on est encore, alors ça fait partie des bricolages sur la Constitution française que M. Darmanin et M. Macron sont en train de faire. Ils le font aussi pour la Corse, qui aurait des lois à part. Alors on ne sait pas s'il y aurait des lois ou simplement des décrets, des adaptations. C'est très ambigu, mais la porte est ouverte pour que la Corse soit une espèce de colonie décolonisée. Entre les mains, alors il faut bien savoir aussi que la Corse aujourd'hui n'est pas entre les mains de tous les habitants de la Corse, elle est entre les mains d'un certain nombre de groupes d'intérêts bourgeois, je veux parler les supermarchés, les transports maritimes, des choses comme ça. Bon. Et donc c'est eux qui veulent avoir plus de pouvoir pour leur business, c'est pas la population corse dans sa grosse majorité. On en reparlera là aussi. Bien. Ensuite, alors des événements, mais il y en a eu énormément. Alors je vais commencer par ce qui est le plus étonnant à propos du cessez-le-feu qui n'a pas eu lieu, donc vous le savez, à Gaza. Je reviens alors sur la question du fameux vote du Conseil de sécurité de la semaine passée, où les États-Unis s'étaient abstenus donc de voter une résolution en faveur d'une pause pendant le Ramadan. Précisément, des combats. Et il s'était abstenu, en disant que, alors la représentante des États-Unis, la dame qui est là, Madame Greenfield, c'est tout, c'est porteur d'espoir, hein, c'est printanier, Madame Greenfield, avait dit que les États-Unis partageaient beaucoup des préoccupations humanitaires concernant la population gazaoui, mais que, de toute façon, non, mais elle avait bien précisé au moment où elle avait lancé ce genre de propos qu'il ne lui coûtait rien, puisqu'elle disait, de toute façon, les résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas contraignantes. Alors, en anglais, non-binding. Alors il faut savoir quand même, et rappeler à cette dame et lui souffler dans le creux de l'oreille, que dans l'article 25 des statuts de l'ONU, dans la charte, il est bien prévu, il est bien dit que l'Assemblée générale n'a pas de pouvoir, elle émet des avis, mais que le Conseil de sécurité est la loi de l'ONU, c'est-à-dire il a la force de la loi. Bon. Donc dès l'instant où la représentante des États-Unis dit que ça n'engage pas les États-Unis, ça veut dire que officiellement, en plein milieu du Conseil de sécurité, devant M. Guterres, devant les 14 autres qui ont voté pour la résolution, elle dit ben, « vous pouvez raconter ce que vous voulez, nous on s'en moque hein. ». C'est-à-dire, elle confirme la position de longue date des États-Unis dans l'ONU, on en fait ce qu'on en veut. Voilà. Bon, là c'était une fois de plus la confirmation. Et j'en arrive donc à ce qui s'est passé je crois que ça s'est passé hier ou avant-hier, on a eu donc une attaque contre des humanitaires qui venaient apporter de la nourriture et des biens immédiats à la population gazaouie. Alors, qui étaient ces humanitaires en question ? Ben, ils étaient 7, ils ont été tués donc par une frappe israélienne dans la bande de Gaza, et il se trouve que ces 7 humanitaires étaient des membres d'une ONG, mais une ONG dont on ne connaît pas d'habitude le nom, qui s'appelle le World Central Kitchen, la cuisine centrale mondiale. Alors, c'est une ONG états-unienne qui avait été, donc, qui s'est impliqué et qui servait pour la mise en place du fameux couloir d'approvisionnement mis en place par les États-Unis eux-mêmes. Hein. Vous savez qu'il y a donc depuis Chypre un bateau qui vient au large de Gaza. Au large de Gaza, ce bateau se décharge sur des petites barges et les barges arrivent sur un quai artificiel qui a été construit par le génie de l'armée américaine et de là les camions partent vers l'intérieur. Bon. Et les membres donc de l'organisation World Central Kitchen ont été tués, c'était donc hier en partie, par une frappe de l'armée israélienne qui a touché leur véhicule. Ils avaient un véhicule qui était allé s'approvisionner sur la fameuse quai dans le centre de la bande de Gaza. Alors, je vous donne les commentaires qui sont parus sur le site de l'AFP. World Central Kitchen est dévasté de confirmer que 7 membres de son équipe ont été tués à Gaza dans une frappe israélienne. Et elle ajoute que les victimes étaient originaires d'Australie, de Pologne et du Royaume-Uni et qu'une d'entre elles avait la nationalité, tout à la fois les nationalités américaines, canadiennes et palestiniennes. Et puis il y avait aussi 2 interprètes palestiniens qui permettaient les contacts directs. Voilà, alors j'ai écouté bien la phrase parce que la phrase, moi, m'a fait très très mal. Que cette organisation soit dévastée, elle a perdu 7 de ses militants qui étaient des gens de bonne volonté, etc. Mais quand vous dites on est dévasté, vous êtes dévasté vous. Mais est-ce que vous avez bien conscience qu'il y a 35 000 morts à Gaza avant votre dévastation à vous ? Le mot dévasté, peut-être vous en faites un usage abusif. Alors je ne sais pas sur vos 7 militants, est-ce que vous êtes 7 sur, enfin est-ce qu'il s'agit de 7 défunts sur 50, 100 militants de cette World Kitchen machin ? Bon, peut-être, mais il y a des mots qui ont de la peine à passer quand on les dit à Gaza. Et alors, le plus fort, c'est que c'est le porte-parole du département d'État, alors dont je vais vous porter ça, ou le porte-parole même de la Maison Blanche, qui ne craignant rien. Voilà, ah oui, alors là, je trouve là, on est dans le sublime et dans l'horrible. La Maison Blanche a le cœur brisé. Ah, le cœur brisé. Écoutez bien, 7 citoyens de différents pays, dont des citoyens américains, donc militants d'une organisation, une ONG que j'ai citée, hein, meurent dans une frappe israélienne. Et au lieu que la Maison-Blanche passe un coup de téléphone en Netanyahu en disant « ça suffit maintenant, arrête », on ne parle pas des 40 autres 1000 morts. Hein. Donc voilà. Alors, quand on a le cœur brisé comme ça, moi j'ai honte. J'ai honte que vous ayez le cœur brisé. N'ayez le cœur pour tous ceux qui meurent sous les frappes israéliennes, ayez le même cœur brisé de la même façon, mais pas uniquement dans ce cas-là. Ça me paraît absolument impossible, c'est indigeste. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est dramatiquement indigeste.
Oui, c'est totalement déplacé même.
Ben oui. Voilà, parce qu'on dit, alors, et donc c'est tout le porte-parole, exactement l'auteur de ces propos, on dit, nous sommes profondément troublés par la frappe, s'il y en a tous les jours. Hein. Et il dit, c'est madame Adrienne Watson, les travailleurs humanitaires doivent être protégés, alors, bien sûr, car ils apportent une aide dont les Palestiniens ont désespérément besoin, et nous exhortons Israël à promptement enquêter sur ce qu'il s'est passé. Enquêtez, hein. Ne dites rien aux familles, ne dites rien, hein, et ne parlez pas des Palestiniens, enquêtez. C'est-à-dire que les enquêtes aboutiront, comme d'habitude, dans ce cas-là, à ce que dira l'armée israélienne et rien d'autre. Voilà. Donc, il y a un deux poids, deux mesures, mais qui est dans une disproportion qui devient de plus en plus épouvantable et insupportable. Voilà pour ce qui est du cessez-le-feu quand on décide de ne pas le faire. Alors, malgré tout, est-ce une bonne nouvelle ? Oui, on peut considérer que c'est une nouvelle intéressante, pas bonne. Le fait que M. Netanyahou ait été arrêté et hospitalisé et que hier, dans Tel Aviv, il y a eu de grosses manifestations contre lui pour effectivement arrêter le carnage, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, montre bien que petit à petit, l'opinion israélienne est en train de prendre corps, est en train de se fractionner, c'est-à-dire que le camp des Poussokrim, des Vatanguer et des génocidaires se met à être contesté. Ça ne fait revenir aucun mort de Gaza. Mais effectivement, c'est de toute façon politiquement un point de passage obligé. Il faudra bien qu'à un moment donné, si les Israéliens veulent survivre et rester en paix là où ils ont envie de rester en paix, là où ils habitent, il faudra bien qu'ils prennent en considération le fait qu'ils ne sont pas seuls sur cette terre. Autrement, ça se terminera, on ne sait pas comment, mais plus mal que ça pour eux, pour ceux qui sont sur cette position. L'intérêt... c'est quand même que M. Netanyahou commence à être contesté et que probablement son hospitalisation exprime une fatigue physique, une espèce de surtension, parce que donc il est sur le front tout le temps, il tient des propos en permanence inconséquents, puisque indigne d'un chef d'État, qui sent bien, puis ça a été le cas, vous savez qu'il avait projeté la semaine dernière d'aller aux États-Unis et en fait le gouvernement des États-Unis lui avait dit que ce n'était pas la peine qu'il vienne. Donc ça, c'est un camouflet, et je pense que c'est ça qui l'a conduit direct à l'hôpital. Pour lui, c'est un bouleversement, c'est-à-dire que d'habitude, il allait, il disait ce qu'il voulait, il demandait ceci ou cela, 3 milliards, 5 milliards, des F-16, des F-35, etc., et il obtenait. Et là, on lui a dit « Non, non, on ne veut pas te voir ». Alors là, je pense que là, ça l'a mis très très mal dans sa tête. Alors, est-ce que ce propos de la Maison-Blanche, on ne veut pas te voir, est un propos passager lié à la campagne électorale ? C'est mon analyse. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il pouvait dire autre chose, Biden le ferait, mais il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas, quand même, vis-à-vis d'une partie de son électorat, qui là aussi risque de s'évaporer, il ne peut pas dire des choses trop horribles. Donc on dit, ben, on dirait, on parle plus à Netanyahou et on le laisse avec ses problèmes et puis on reviendra après quand on y aura vu clair. Alors, on reviendra après, je fais quand même un compte, c'est bien la campagne électorale, on est quand même qu'en avril, le vote il a lieu en novembre, hein. Ça fait encore 7 mois. Sept mois à 1 000, 2 000 morts gazaouis par jour, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Là, on arrive à presque 100 000 gazaouis assassinés par l'armée israélienne. C'est ça, voire peut-être plus, parce qu'on peut imaginer que l'épidémie de faim et les épidémies de maladies diverses qui vont nécessairement se développer sur cette population très très fragilisée, on peut arriver à des chiffres beaucoup beaucoup plus importants. Mais j'allais dire cyniquement, l'important c'est que la campagne électorale de M. Biden se passe tranquillement. C'est pas acquis. C'est pas acquis, loin s'en faut, parce que sur d'autres sujets, les affaires ne vont pas si bien que ça. Alors, les affaires ne vont pas si bien que ça, et bien entendu, à part cette petite aperçu sur la situation en Palestine, alors en fait, en plus, une autre indication, c'est que, d'une part, il y a eu des manifestations de Palestiniens en Jordanie qui ont été réprimées. Alors, il faut savoir que la Jordanie est encore un royaume mis en place par les Britanniques, que l'encadrement des Palestiniens, qui sont très très nombreux en Jordanie, est une préoccupation constante, quotidienne, même à la minute, de la monarchie hachémite de Amman. Et donc, ces manifestations ont été réprimées. Mais elles ont eu lieu. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient prêts à aller, à traverser le Jourdain, à aller de l'autre côté, chez les Palestiniens, pour dire maintenant on les aide. Donc on sent bien que là il y a un bouillonnement intéressant et qui va probablement se poursuivre. Et puis la suite du conflit, c'est ce qui s'est passé donc hier très précisément à Damas. Qu'est-ce qui se passe hier à Damas ? Eh bien donc, des avions israéliens, comme ils en ont hélas la très mauvaise habitude, circulent dans le ciel de la Syrie, qui n'est pas en guerre avec eux, qu'on le sache, et donc bombardent un local qui est un local appartenant à l'Iran. Alors ce n'est pas exactement l'ambassade comme il a été dit très simplement, c'est un local qui est attenant, c'est le petit bâtiment d'à côté, qui est le local du consulat d'Iran à Damas, où dans lequel il y a en plus un certain nombre de logements pour les visiteurs de l'ambassadeur d'Iran. Bon. Et donc il se trouve que, et là le renseignement israélien est à la hauteur de sa réputation, il y avait dans ce bâtiment, donc le consulat d'Iran à Damas, le chef des gardiens de la révolution. Et quelques-uns de ses collaborateurs. Donc Israël a décidé, sur la base de ces renseignements-là, d'attaquer ce bâtiment diplomatique, protégé par toutes les conventions internationales, et de tuer, c'est réussi de ce point de vue-là, ce monsieur est mort, il sera remplacé, le corps des gardiens de la Révolution, il a du passé, il a des cadres, il a des formation permanente de très très haut niveau, donc il sera remplacé. Mais ça veut dire que tout le monde trouve normal qu'Israël vienne bombarder un local diplomatique dans un pays étranger. Il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas de récrimination internationale. Alors je sais qu'il y a une demande, je ne sais pas qui a saisi le Conseil de sécurité, mais normalement quelqu'un a demandé à ce qu'il y ait une séance particulière du Conseil de sécurité là-dessus, puisque quand même la protection des lieux diplomatiques fait partie des conventions de Genève, ça fait partie des règles de base du droit international. On n'a pas le droit d'aller... Alors, on se souvient bien entendu tous du bombardement de l'ambassade chinoise à Belgrade au moment de la guerre de Yougoslavie. Mais il y a des règles là-dessus, c'est-à-dire on peut aussi, c'est ce qui se passe, dire les règles en matière de protection des lieux diplomatiques et de l'immunité des lieux diplomatiques comme l'immunité des diplomates. Bon, on s'assoit dessus et c'est comme ça. Bon. Je pense que l'Israël ne l'emportera pas en paradis. Bien entendu, l'Iran a réagi tout à fait normalement en disant que ce crime, donc ce viol de la loi internationale sur les locaux diplomatiques et sur les diplomates, ne resterait pas impuni. La riposte sera, je pense, calculée. Elle sera de taille. On peut l'imaginer. Ce qu'il y a d'important, c'est de voir quel était le prétexte de cette attaque et de cet assassinat, donc, qui était le fait que la visite de ce monsieur était une visite destinée à mettre au point un certain nombre de techniques militaires ou de mettre au point des questions de fourniture d'armement au Hezbollah libanais, qui est, on le sait, soutenu par les Iraniens. Et donc c'est ça que Israël voulait empêcher. Alors elle n'empêchera rien, je pense, mais ça va pousser dans le sens d'interventions plus puissantes du Hezbollah dans le conflit. Alors le Hezbollah s'en est tenu pour l'instant à une attitude relativement modérée sur la frange sud de l'État libanais, mais effectivement on sait qu'il a les moyens techniques et les capacités tactiques aussi de faire plus. Il a déjà obligé une centaine de milliers d'Israéliens, en particulier de colons, de fermiers, j'allais dire, de reculer vers l'intérieur du sol, sur le sol israélien, il peut faire plus. Donc on a là une possibilité d'accentuation du conflit autour du conflit palestinien. L'autre possibilité d'accentuation, c'est intéressant à noter aussi, c'est que la semaine dernière, le port d'Eilat, alors le port d'Eilat, c'est le port sud d'Israël, qui est un port qui est au fin fond du golfe d'Aqaba. Alors quand vous regardez la mer Rouge, elle se finit au nord par deux espèces de grandes oreilles, une grande oreille qui est le golfe de Suez et l'autre oreille qui est le golfe d'Aqaba, sur le côté est. Et au fond du golfe d'Aqaba, il y a un port jordanien qui s'appelle Aqaba et il y a un port israélien qui s'appelle Eilat. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le port d'Eilat a été bombardé, non pas par les Palestiniens, mais par des Irakiens qui ont envoyé des drones qui ont attaqué le port d'Eilat. Ça veut dire qu'il y a en Irak aussi ce qu'on appelle aujourd'hui, pour faire simple, le Hezbollah irakien, qui intervient aussi dans la guerre. Et ça donne un caractère de la guerre actuelle qui se livre entre la Palestine et le régime sioniste, c'est-à-dire qu'en fait, la guerre, elle est menée par les Palestiniens là où ils peuvent, à Gaza, et même un petit peu en Cisjordanie maintenant, et puis elle est menée par les amis de ce qu'on appelle la résistance, c'est-à-dire le Hezbollah au Liban, le Hezbollah irakien, les Houthis au sud. On a affaire à toute une série d'engagements militaires qui ne sont pas des engagements d'État. Et là, ça dérange beaucoup Israël, parce qu'Israël était... habitué, c'est beaucoup dire, mais Israël savait faire quand elle avait affaire à un régime arabe qui portait les armes en défense des Palestiniens. Parce que c'est ça aussi le destin cruel des Palestiniens, c'est que jusqu'à présent, leurs intérêts ont été défendus par des armées d'autres pays et pas par eux-mêmes. Or là, ce qui se trouve, le front de la résistance, ça veut dire, c'est des Palestiniens encadrés d'un certain nombre de groupes qui existent, mais qui ne sont pas au pouvoir, qui ne représentent pas des États, donc des groupes qui sont aussi militants que le Hamas, le Front Populaire de Libération de la Palestine et tout. Et ça, c'est une donnée particulière, parce que ça veut dire, en pratique, il ne peut pas y avoir de négociation comme il a pu y avoir entre Israël et l'Égypte, par exemple, parce que de toute façon, on a affaire à des gens qui n'obéissent pas à un gouvernement établi. Et c'est ça la donnée nouvelle de la situation, et c'est ça qui fait qu'on peut avoir, et c'est mon cas, un espoir sur la lutte de libération de la Palestine, parce que là elle est portée par des gens de la base qui n'attendent pas d'avoir un chef d'État et une armée officielle qui viennent travailler pour eux. Parce que ils ont, alors l'expérience historique en plus elle est redoutable, parce que en fait quand je pense à la guerre du Kippour en 73, quand Israël est attaqué à la fois par la Syrie et par l'Égypte, il s'avère qu'au bout de quelques jours l'Égypte laisse, comment on dirait vulgairement, laisse tomber. Et donc la Syrie se retrouve toute seule et prend une claque militaire. Bon. Et donc ça, je pense que les Palestiniens qui ont de la mémoire se sont rendus compte qu'être défendu par un État dont ce n'est pas le problème central, et en particulier pour l'Égypte, ce n'est pas le problème central, l'avenir des Gazaouis, eh ben, ce n'est pas être défendu par des gens très très sûrs. Donc il vaut mieux se défendre soi-même. Bon, la leçon est tellement claire. On en reparlera certainement, mais on sent qu'il y a des évolutions par rapport à ça. Et j'en finis sur cette question de la Palestine avec une interview, alors je ne vais pas la relater dans son entier, d'une madame qui est une avocate italienne qui s'appelle Francesca Albanese, qui se trouve être rapporteuse de l'ONU pour la question des droits de l'homme en Palestine. Alors cette dame, il y a un long interview, mais je vais m'arrêter un peu sur la fin, vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, elle explique pourquoi, selon elle, il y a effectivement un génocide en cours, qu'il n'y a pas de doute. Hein. Et puis à un moment donné, on lui dit, mais vous êtes experte indépendante des Nations Unies, mais vous ne pouvez pas aller sur place pour vous rendre compte. Alors voilà. Mais elle est quand même nommée par les États-Unis. Alors elle dit, ben oui, Israël a annoncé en février 2024 qu'il m'interdisait le territoire. Mais en réalité, aucun rapporteur spécial de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés n'a été autorisé à entrer dans le pays au cours des 16 dernières années. Alors vous pouvez bien, depuis New York, dire on envoie Madame X, Madame Albanaise ou Monsieur Y, etc., s'occuper des droits des Palestiniens, mais en fait, ils ne peuvent pas rentrer, donc ça, c'est pas grave. Alors, et on pourra. Alors, vous voyez, la perversité de la position, c'est de dire, ah oui, cette dame ou ce monsieur dit ça, mais il n'est même pas venu voir, bien entendu, puisque vous ne laissez pas atterrir sur les aéroports israéliens, qui sont les seuls qu'on peut utiliser. Alors, ce qu'elle dit, alors elle tire une conclusion très simple, avec le sourire, à ce qu'elle dit, ben... C'est très simple, Israël agit au mépris du droit international et des règles de l'ONU de bout en bout, considérant que nous serions partiaux ou anti-israéliens, ce qui n'est pas vrai. Aucun de nous n'a jamais eu quoi que ce soit contre Israël, nous voulons simplement qu'Israël se comporte conformément au droit international. Est-ce trop demandé ? Et elle ajoute, il faut cesser de nier les comportements criminels imputables à Israël. À long terme, cela va être encore plus préjudiciable que cela l'a été jusqu'à présent, tant pour les Palestiniens que pour les Israéliens. Voilà. C'est parfaitement clair. Voilà, sur le chapitre Palestine-Gaza. Alors on va passer à un autre chapitre qui a des développements très très intéressants aussi, qui est le chapitre russo-ukrainien. Alors j'essaye de synthétiser parce que comme les événements et les nouvelles se sont accumulés jour après les jours et tout, où en est-on aujourd'hui ? Alors où en est-on aujourd'hui ? D'une part, bon, je ne reviens pas sur l'attentat donc à Crocus avec donc les personnes, les quatre tueurs qui arrivent, qui inondent de balles de fusils mitrailleurs les gens qui trouvent sur place et qui in fine mettent le feu. Et donc on considère d'ailleurs que sur les 140 morts aujourd'hui recensés, il y a encore 5 ou 600 blessés dont certains dans des états graves, mais que le feu a été pour beaucoup, à la limite, plus que les tirs d'armes automatiques. On compte une quarantaine de morts par tir d'armes automatiques et les autres donc par le feu. Bon. Et puis ces gens-là mettent le feu et s'en vont. Ils s'en vont dans une voiture. Et il se trouve que, alors là, ce qui s'est passé, est-ce que les services de sécurité russes ont été dépassés ? Alors là, je livre une hypothèse qui n'est pas trop reprise ici et là, mais qui me paraît pas inintéressante. C'est-à-dire que pour les services russes, l'affaire donc du Crocus était programmée pour plus tôt. Elle était programmée pour avoir lieu 4 ou 5 jours avant les élections présidentielles. Il s'agissait de mettre le trouble et éventuellement de retourner une partie de l'électorat contre Vladimir Poutine. Et l'occasion choisie avait été un concert donc, dont la date était fixée au 4 mars. Les élections commençaient le 15, je crois. Et donc, il y avait un chanteur très célèbre, un groupe qui s'appelle Chaman, qui devait chanter. Il a chanté. Et il se trouve que c'est à propos de ce concert, sans qu'il soit expressément nommé, que dans la presse des États-Unis et sur les sites des ambassades des États-Unis et de Grande-Bretagne à Moscou, il était dit aux ressortissants de ces pays-là, qui sont d'ailleurs très très peu nombreux sur place, éviter d'aller dans les concerts en ce moment. Et donc tout naturellement, les regards s'étaient portés sur ce Crocus, puis c'était là d'ailleurs un gros concert d'un monsieur qui paraît-il est très populaire, etc. Le groupe Chaman. Bon. Ce message avait n'est évidemment pas passé inaperçu des services de sécurité russes. Et je peux penser, c'est mon hypothèse, que si l'attentat n'a pas eu lieu ce jour-là, c'est parce qu'effectivement, la protection était assurée, qu'ils avaient prévu le coup, et donc qu'ils ne voulaient surtout pas que ça ait lieu. Et donc, les autres, en s'arrivant, ils se sont aperçus qu'ils n'arriveraient jamais à rentrer dans le bâtiment. Mais, ayant échoué là, et bien que entre-temps, Madame Nuland eût été exclue du département d'État des États-Unis, donc en tant que ministre des Affaires étrangères en charge des problèmes ukrainiens et russes en particulier, ceux qui avaient préparé cet attentat devaient avoir un peu une espèce de regret, on avait tout préparé, c'était si bien, c'était un coup fabuleux, etc. Les doigts devaient leur démanger. Si on le refaisait, et là je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Alors c'était un autre groupe qui passait, le groupe Picnic qui jouait. C'était un groupe considéré par certains comme sataniste et tout ça, j'en sais rien, mais un groupe plus dissident, moins grand public que le groupe Chaman. Et ils ont dû se dire, ah là on tient quelque chose, et finalement tout est prêt, les armes sont prêtes, les financements sont prêts, etc. On le fait là. Et est-ce que... Alors ça, j'ai vu ça écrit quasiment nulle part. Est-ce que de ce fait, les services russes ont baissé le niveau de protection, se sont moins méfiés, ils n'ont pas pensé qu'ils renouveleraient l'attentat parce qu'ils étaient déçus de ne pas avoir pu le faire le premier coup? Ça ne me paraît pas impossible. Parce qu'ils sont quand même, ces quatre tueurs sont quand même restés à peu près une heure sur place. Est-ce que l'alerte a été donnée très vite? Est-ce qu'on a attendu qu'ils sortent? Je ne sais pas. Mais il y a une espèce de blanc. Alors certains disent, là les services de sécurité russes ont été débordés. Débordés, je ne pense pas. Mais ils n'avaient peut-être pas imaginé que le vice consistant à dire on a raté la liquidation de 500 ou 1000 personnes, on va recommencer parce que tout est prêt, la logistique est là, les armes sont là, l'argent est là et tout. On a été formés pour ça, hein, parce que je pense que c'était les quatre mêmes qui était prévu, qu'ils avaient été entraînés, etc., que les caches d'armes étaient toujours là, que les financements étaient toujours là. Pour moi, c'est une hypothèse qui reste vraie. C'est-à-dire qu'il y aurait une baisse d'attention des services russes qui aurait permis la réalisation de la deuxième opération. Voilà. Je vous le dis, je ne l'ai pas lu ailleurs, mais ça me paraît vraisemblable. C'est-à-dire que le gouvernement russe disait, maintenant ils ont compris, Poutine a gagné les élections, ils ont tenté ça, puis ils ont raté, n'en parlons plus. On les a bloqués une fois, si nécessaire, on les bloquera une deuxième, et puis ils n'ont pas réussi. Alors, est-ce qu'il y a une tromperie? Je ne sais pas. Mais ça paraît possible. Ceci étant, le fait que les quatre tueurs aient pu s'en aller vivants fait qu'ils ont pu être pris. Ça devient important. Qu'ils ont été pris donc dans une route qui allait vers l'Ukraine, et contrairement à ce que des gens qui ne regardent pas les cartes ont dit, ils allaient rentrer en Ukraine par un endroit où il n'y a pas la guerre, c'est-à-dire au nord de la ligne de front. C'est-à-dire un endroit où ce n'est pas contrôlé partout et on peut passer. En plus, ils étaient probablement attendus. Bon. Donc, ils ont été attrapés là, on les a pris dans un bois, donc à l'abri des regards indiscrets, et on les a fait parler. Alors je m'arrête un peu là-dessus parce qu'il faut qu'en tant que citoyen d'un pays qui se voudrait démocratique, on essaye de maîtriser des réflexions à ce sujet-là. Ils ont été torturés, que ce soit bien clair. Ils ont été tellement torturés que quand ils ont été déférés devant le tribunal qui va les juger, ils sont arrivés en sortant des séances de torture. C'est-à-dire que je peux vous dire qu'ils n'étaient pas beaux à voir. Bon, pour assumer ça, devant l'opinion russe, puisque les images de ces personnages ont été vues sur les télévisions russes, faut être sûr de son coup, c'est-à-dire faut être sûr qu'il n'y aura pas une levée de bouclier en disant « comment vous avez osé torturer ?» Auquel cas on va vous répondre « combien ils ont fait de morts? Combien ils voulaient en faire? Est-ce qu'ils n'auraient pas recommencé ?» Et donc tant pis pour eux. Hein. Mais je sais qu'il y a chez certains démocrates occidentaux une espèce de démangeaison. Ah, disons, la torture, c'est pas bien. Hein. Bon, alors la torture, c'est pas bien, sur le principe, il n'y a pas de doute. Quand vous avez laissé 100, 200, 300, 400 personnes sur le carreau, des innocents, des femmes et des enfants, entre les mains de ces quatre personnages, vous pouvez dire, il faut les faire parler parce qu'on veut au moins qu'ils ne recommencent pas et on veut surtout savoir qui les a commandités. Parce que là, c'est la deuxième question importante qui se pose. Ces quatre personnages n'étaient pas des super cerveaux du terrorisme, donc ils étaient dans une opération très très sérieusement organisée, avec des financements, des caches d'armes, des modes de transport, etc. Ils avaient une formation particulière en Turquie. En Turquie, on sait où, tout ça. Bon, donc on sait beaucoup de choses. Et donc, en parlant, ils ont commencé à dire des choses, et puis on a appris leur téléphone portable. C'est élémentaire. Et on s'est aperçu qu'ils avaient des financements, soit par des virements, soit par de la crypto-monnaie. Tout ça permet de voir beaucoup plus clair dans le montage de l'opération, et d'une part, de séparer. Alors, la version occidentale officielle qui a été mise en circulation, ce sont des islamistes venus du Tadjikistan et peut-être d'Afghanistan, peu importe, c'est par là, là-bas, appartenant à un groupe islamiste qui est connu, peu nombreux apparemment, et puis c'est la version officielle qui a été mise en circulation, attendez bien, dans certains médias des États-Unis avant l'annonce même de l'attentat. Bon, donc tout était prêt, mais comme c'était probablement prêt pour la fois d'avant, pour le jour du concert de Shaman, hein, la version était prête. C'est pour ça qu'elle sortait, elle était sur le bureau, il n'y avait qu'à dire « Ah ben c'est le moment de la mettre en circulation ». Bon, ça en dit long sur la façon dont l'opinion se prépare. Bon. Et donc, ce qui se passe, c'est effectivement, il y a certainement une accointance islamiste, c'est-à-dire que les quatre tueurs ont été inspirés par un prêcheur, un imam quelconque, etc., qui leur a dit ce qu'il fallait faire, et qui leur a dit qu'il fallait tuer des chrétiens. Et donc, on avait affaire à une patte molle de gens sûrement pas très futés, donc pris en charge par un islamiste, un propagateur islamiste, et puis voilà, ils y vont. Et puis après, on leur dit, après, tout est organisé, vous inquiétez de rien et tout. Mais donc, ça permet de conserver utilisable la version « c'est des islamistes » et de ne pas voir tout le reste. Tout le reste, ça veut dire les étagements du processus à différents niveaux. Donc vous avez déjà le prédicateur islamiste qui a sélectionné ces quatre tueurs. Bon. Ensuite, lui, il reçoit des ordres de quelqu'un, mais on ne sait pas qui lui dit de recruter ces quatre et pourquoi exactement. Petit à petit, on va lui dire, il faut qu'ils aillent ici, il faut qu'ils aillent là, ils ont un logement qui est prévu pour eux, là, ils ont une voiture qui les attend, là, il y a une autre voiture, les armes sont à tel endroit et tout. Là, il y a un deuxième niveau d'information, mais qui est coupé, il y a juste ce monsieur qui sait, et il reçoit un coup de téléphone ou il reçoit un SMS pour dire, voilà, les logements, c'est là, la voiture, c'est là. Donc, il y a un niveau encore au-dessus qui a conçu l'opération dans sa totalité. Le jeu, ça consiste à dire, il faut couper tous ces passages intermédiaires pour qu'on n'arrive pas au sommet. Ça paraît tellement élémentaire. Bon. Et donc, ce qui se passe, c'est que le fait qu'on ait soumis ces messieurs à la torture et qu'on ait pu analyser leurs téléphones portables et leurs échanges, etc., ça a permis de remonter les différents niveaux. Et tous les différents niveaux remontent au chef des services de sécurité ukrainiens. C'est parfaitement clair. Donc voilà, donc on arrive petit à... Alors c'est dérangeant parce que finalement la version islamiste n'est plus tellement vendable, et c'est au point, alors c'est tellement sûr du côté des Russes que dans la journée d'hier, le ministère des Affaires étrangères russe a demandé l'extradition du chef des services de renseignement ukrainien sur la base du non-respect de la Convention internationale sur le financement du terrorisme. Il en existe une convention internationale sur le financement du terrorisme. Alors, c'est peut-être pas toi qui as décidé politique, mais en tout cas, l'argent, il est venu de chez toi, on a les preuves, on a les traces, on a les montants, les sommes, etc., les numéros des comptes. Alors, je pense pas que le gouvernement Zelensky va envoyer ce monsieur à Moscou, mais ça va compliquer un peu la présentation propagandiste des opérations. Ben voilà, la Russie accuse très clairement, et c'est un peu gênant pour l'opinion internationale, parce que cette convention sur le financement du terrorisme, tout le monde dit que c'est très bien, hein, parce qu'il faut éviter de le financer. Mais quand c'est le chef des services de renseignement d'un pays ami comme l'Ukraine, on pense qu'elle devrait l'être, ça devient un petit peu troublant. Voilà, en gros, j'essaye d'avoir regroupé les informations pour donner le fil de l'événement. Donc, ce rapport à la torture, ben, je crois qu'il faut que nous regardions ça clairement de nos yeux, froidement, mais qu'une opinion comme l'opinion russe, qui a été extrêmement choquée par cet attentat, dise qu'il n'y a pas eu de protestation disant que... Alors, apparemment, ils n'étaient pas beaux à voir. Moi, je ne suis pas allé regarder les images, mais ils n'étaient pas beaux à voir, parce qu'ils sortaient du tabassage. Hein, faut être clair là-dessus. Bon, mais ça n'a pas suscité de manifestations dans l'arrière Moscou. Il y a quand même 150 morts, il y en aura probablement une bonne centaine d'autres dans les blessés. Bon, et puis, c'est inacceptable, c'est tout. Bon. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Alors, le chef des services de sécurité, donc, c'est pour bien expliquer c'est pour bien expliquer effectivement l'accumulation des données et pour bien expliquer le fait que d'avoir attrapé ces quatre personnes et de leur avoir fait subir ce traitement-là était le moyen d'y voir clair. Autrement, on serait resté dans le vague des islamistes qu'on ne connaît pas, venus d'un endroit bizarre et tout. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est un attentat d'un niveau de très haut niveau de sophistication, préparé de longue date, peut-être décalé de quelques jours. Ça, c'est une hypothèse que je livre, mais on en reparlera. Et je vais finir sur une bonne nouvelle qui concerne, je pense que ce sera une bonne nouvelle qui concerne la Palestine. Je reviens sur la Palestine parce que M. Pedro Sanchez, donc, qui est le Premier ministre espagnol, bien connu, est en tournée au Moyen-Orient. Alors, je ne sais pas où il est allé précisément, mais à l'occasion, donc, il voyage avec des journalistes qui l'accompagnent dans son avion, et un certain nombre de journalistes qui l'accompagnaient dans son avion ont dit qu'il nous a dit que l'Espagne allait d'ici l'été reconnaître l'État de Palestine. Et quand ça veut dire beaucoup, parce qu'il n'a pas dit ça au hasard à des journalistes, ça veut dire que s'il y a un pays de l'Union européenne qui décide de reconnaître la Palestine, ça veut dire que les autres vont être un peu gênés pour dire pourquoi on ne le fait pas. Et donc ça, c'est un premier pas très très intéressant. Et puis ça veut dire aussi, du point de vue du droit, un changement fondamental, c'est-à-dire que l'État de Palestine étant reconnu, l'État de Palestine a un territoire, l'État de Palestine a des eaux territoriales, et je pense en particulier au petit port humanitaire là, dont on parlait tout à l'heure. Ce port particulier n'existe plus. Il est sur des eaux. Il sera ce jour-là dans les eaux palestiniennes, et donc la marine américaine pourra remarquer son matériel. Et il pourra arriver de l'aide humanitaire, de la vraie, en grande quantité, dans les eaux palestiniennes, à Gaza palestinienne. Il faut que ça aille vite, il a raison, mais il prend un risque politique, et je le salue, il prend un risque politique non nul d'être en avance par rapport à l'Union européenne, de dire, pas tout à fait le contraire, mais presque de ce que Borrell, le ministre des Affaires étrangères de l'Union, dit, mais il est en train d'ouvrir une brèche dans le bloc européen par rapport à la question palestinienne. Je pense qu'il sera suivi très facilement par l'Irlande, qui ne demande que ça, et qui va, je pense, porter plainte aussi à la Cour internationale de justice contre Israël. Ça sera encore une plainte de plus. Peut-être d'autres. Alors, je pense pas aux Pays-Bas ni à des alignés comme ça, mais il y en aura peut-être d'autres. Je suis pas possible que la Belgique joue le jeu aussi. Donc, il va y avoir une fracture au sein du bloc de l'Union européenne par rapport à la question palestinienne. Et je salue l'apparition de cette toute petite fissure. Voilà. On en reparlera la semaine prochaine. Merci, Roselyne.
Tu veux qu'on mette la musique
Oui, je veux bien pour finir. Oui, je veux bien pour finir.
D'accord.
Ah, ouais. J'allais pas parler, non. J'ai deux secondes. Alors, je vais parler du. Alors, vous allez découvrir ça. Le Rolex Gate. Qu'est-ce que c'est que le Rolex Gate? Alors, c'est pas une nouvelle affaire Sarkozy. Ça touche la présidente actuelle du Pérou, Madame Boluarte. Alors, vous savez que cette personne qui était Premier ministre a pris le pouvoir en poussant à la porte le président légalement élu, Pedro Castillo. Et que depuis, elle est au gouvernement. Et il se trouve qu'elle est pourchassée par la justice de son pays parce qu'elle a exhibé une Rolex à 14 000 dollars pièce. Il paraît que ça existe. Et elle a dit qu'elle en avait d'autres. Hein. Et donc, ça a fait scandale. Et il y a un tiers des ministres de son cabinet qui ont dit que ce n'était pas possible d'afficher tant de richesses et tant de niveaux de corruption face à un gouvernement qui voudrait se dire populaire. Et donc, du coup, elle a été victime d'une perquisition à son domicile, mais elle n'était pas là, elle était en voyage, donc ils sont rentrés, ils ont peut-être trouvé des Rolex ou pas des Rolex, mais enfin, voilà à quoi joue la présidente d'un État qui est arrivé dans des conditions extrêmement douteuses au pouvoir et qui affiche ses Rolex à la télévision. Ça fait partie de la décadence en cours, enfin, un cas de plus. Voilà. Rolex Gate, regardez ça, ça existe.